L'amour est un phénomène très rare dans la vie humaine. Le préjugé répandu selon lequel l'amour est aussi fréquent que les histoires sentimentales vient sans doute de ce que la poésie a fait notre éducation. Mais les poètes nous trompent. Ils sont les seuls pour qui l'amour soit une expérience non seulement cruciale, mais même indispensable, ce qui les autorise à la croire universelle.
Mais le bien-aimé est tout de même cette tranche de réalité qui incite le poète à écrire une œuvre dont le contenu n'a aucun rapport avec la fonction ordinaire de cet objet dans le monde réel. Nous sommes tous poètes, bien plus que nous ne sommes des êtres de raison. Je veux dire que lorsque nous aimons, c'est en poète, c'est-à-dire avec des yeux qui transfigurent et célèbrent dans l'extase de notre être global le mystère de nos liens originels avec toute existence.
Oui, on peut bien dire que nous sommes tous poètes, ne serait-ce que parce que la poésie des poèmes active des éléments d'expérience qui traversent quiconque, ou parce que, réciproquement, les vers, les pièces de poésie sont susceptibles de tomber dans n'importe quelle oreille. Mais cela n'empêche pas que ce sont les troubadours qui ont inventé l'amour dont nous subissons aujourd'hui les restes déchus en romance.
Parallèlement à une évolution qui s'était produite d'abord en islam, une progressive sublimation s'est accomplie sous l'influence du sentiment religieux pour aboutir à ce que Dante appelle « amour ». Le rêve d'une passion humaine mais souveraine, que rien ne satisfait et que rien n'arrête, a eu sur toute la civilisation de l'Europe une immense influence. Lorsque l'amour spirituel, à son tour au XIIIe siècle, se renouvelle en renouvelant son style, dans la vie comme dans l'expression littéraire, il le fait par un emprunt direct aux attitudes courtoises et à la poésie dont elles vivent. Nous le voyons simultanément dans les gestes et les dits de saint François d'Assise ou de ses premiers disciples, dans la biographie et les écrits des extatiques d'Allemagne ou de Brabant, les Mechtilde et les Advige.
Oui, la mystique dite nuptiale, inventée par les Béguines, est en quelque sorte une spiritualisation de l'amour chanté par les troubadours. Mais en faisant cela, est-ce qu'elle fait autre chose que de rendre à Dieu ce qui, d'une certaine manière, lui appartient? Les vers d'amour adressés à Dieu manifestent combien l'expérience de l'amour a son origine dans une expérience de Dieu. Cette filiation paradoxale se rejoue plus ou moins discrètement dans la manière dont chaque rencontre amoureuse demande à la vie où elle surgit comment elle trouvera place en elle.
La très jeune Lou von Salomé, qui vécut cette origine religieuse de l'amour en une sorte de concentré pathologique, témoigne exemplairement de ce que la source de l'expérience de l'amour gît dans l'expérience de Dieu, qui non seulement la précède, mais aussi lui donne sa forme. Le premier homme qu'elle a aimé était une sorte de tenant-lieu de ce Dieu en qui s'alliait la chaleur du giron maternel et l'omnipotence paternelle, dont l'enfance lui offrit la jouissance puis la perte.
Maître et instrument à la fois.
Il s'agissait d'un pasteur qui lui ouvrit les portes de l'étude, de la vie intellectuelle.
Il semblait servir mes propres intentions. Mais comme il devait rester en quelque sorte un double, un sosie, un revenant du bon Dieu, il me fut impossible de donner un vrai dénouement humain à notre histoire d'amour. Il me fallait le suivre, car il était lui. Et il cessa de l'être quand il se méprit sur moi, c'est-à-dire lorsqu'il m'adressa une demande en mariage. Quand arriva le moment décisif et inattendu où il me demanda de faire sur terre le bonheur de sa vie, je m'en sentis incapable. Ce que j'avais adoré déserta tout d'un coup mon cœur et mon esprit y me devint étranger. Sentir quelque chose qui avait des exigences propres et ne se contentait plus de réaliser les miennes, mais au contraire les menaçait et cherchait même à détourner du droit chemin les efforts que je faisais pour me trouver, dont il était justement le garant, et ce pour les mettre au service de l'autre. Cela fit qu'en l'espace d'un éclair, cet autre fut aboli pour moi. C'était vraiment un autre homme qui était devant moi. Un homme que j'avais divinisé et que, sous ce voile, je n'avais pu clairement percevoir. Cependant, cette divinisation avait eu pour moi des avantages, car jusqu'alors, il avait été celui dont l'influence m'était nécessaire pour me réaliser pleinement.
Ce que Lou ne dit pas, c'est que l'adoration n'est pas seulement le mode sur lequel elle aime, mais celui sur lequel elle aime être aimée. Comme une déesse de pierre, de sorte que le mariage, et en lui surtout la dimension de l'échange sexuel, ne peut être qu'une déchéance.
Les époux sont des banalités l'un pour l'autre.
Cette impossibilité d'accomplir un amour dans une vie, du fait de l'identité secrète entre la relation à Dieu et le comportement amoureux, est un élément fondamental de la théorie de l'amour de Lou Andreas Salomé. Je veux dire, de la théorie qui a dirigé sa propre manière d'aimer, sa vie durant.
L'expérience incomplète de l'amour avait gardé pour moi un charme unique, inégalable, un caractère irréfutable qui n'avait pas besoin de subir l'épreuve de la vie. C'est pourquoi la fin brutale de cette histoire fut un pas vers la joie et la liberté, alors que dans mon enfance, la perte de Dieu, qui était une expérience si semblable, m'avait plongé dans un profond chagrin. Un lien continua de m'unir à cet homme qui fut le premier à être vraiment réel, et dont la volonté et l'enseignement m'avaient permis de me trouver moi-même. Grâce à lui, j'appris pleinement à vivre.
Au fond, pour elle, l'expérience de l'amour trouve son accomplissement le plus haut dans la formation, au sens allemand de la Bildung, d'un être. Elle ne peut fondamentalement rien contre la finitude. Comme si l'état amoureux était à la fois ce qui dessert pour un temps l'étau de la solitude par la grâce de l'autre et ce qui est toujours condamné à échouer du fait de la persistance de cet isolement. C'est peut-être pour cela que la célébration de l'amour ne se départit jamais chez elle d'un certain pessimisme.
L'amour ressemble à des exercices de natation avec une bouée. Nous faisons comme si l'autre était lui-même la mer qui nous porte. C'est pourquoi il devient pour nous à la fois aussi précieux et irremplaçable que notre patrie d'origine, et aussi troublant et déconcertant que l'infini. Nous, univers devenu conscient et par là morcelé, nous devons nous freiner, nous supporter mutuellement dans les variations de cet état. Nous devons faire la preuve concrète de notre profonde unité, c'est-à-dire physiquement, corporellement. Mais la réalisation positive, matérielle de ce fait essentiel, preuve apparemment irréfutable, n'est qu'une affirmation qui se heurte à l'isolement irrémédiable de chaque individu dans les limites de sa personne.
On se prend à songer à ce qui se serait passé si Kierkegaard avait vécu assez pour rencontrer Lou von Salomé. Elle qui, en opérant une transsubstantiation de l'expérience de Dieu dans l'expérience de l'amour, en traversant le lien conjugal sans s'y plier, a opéré en quelque sorte le mouvement inverse de celui auquel Kierkegaard semble avoir rêvé. Car même lorsqu'il cherche, comme dans les œuvres de l'amour, à sonder le plus près possible le mystère de l'amour chrétien, lui aussi trouve son point de départ, non dans l'amour du prochain lui-même, mais dans l'amour chanté par les poètes. Et cela d'abord pour définir l'amour du prochain, l'agapé, par différence avec l'amour d'Eros, comme on définit le moins connu à partir du mieux connu, mais aussi parce qu'il s'agissait pour lui, singulièrement, d'opérer la transsubstantiation d'un amour-passion en amour chrétien.
Kierkegaard espérait que l'amour qu'il portait à Régine pourrait transfigurer son ancienne fiancée, en lui permettant de passer du stade de la bien-aimée à celui du prochain. L'amour humain se serait ainsi haussé au niveau d'un amour où deux êtres se seraient retrouvés comme semblables, en tant que créatures de Dieu, communiant en une même foi.
Le caractère paradoxal de cette idée, transformer ce qui naît d'une prédilection en une réalité où n'entre plus la préférence, avoir besoin de partir de ce qu'on se propose de métamorphoser, c'est-à-dire de dépasser, mais d'un dépassement existentiel et non logique, indique assez ce qui l'anime, l'exigence d'inventer, pour répondre à ce qu'il y a d'impossible dans l'amour, quelque chose d'autre que le mariage, mais quelque chose qui ne laisserait pas chacun dans la solitude, face à ce qui requiert singulièrement une existence.
Sais-tu, Anna, ce qu'il y a de plus difficile, entre toutes choses, ce qu'il est donné à un être humain de porter ? Pour tout le reste, il y a des voies et des secours, des garde-fous pour s'y repérer, tandis qu'en l'occurrence, être dans l'amour,
in der Liebe sein,
veut dire être contraint à son existence la plus propre,
in die eigenste Existenz.
Amo signifie volo utsis, a pu dire saint Augustin. Je t'aime, je veux que tu sois ce que tu es.
Enfin, ma chère Lou, la vieille et profonde demande de mon cœur, devenez celle que vous êtes. On a d'abord du mal à se libérer de ces chaînes, et finalement, il faut encore se libérer de cette émancipation.